Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Parce qu'entreprendre dans la mode, c'est aussi aller en amont de la filière. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'univers de la tannerie Mégisserie. Nous allons à la rencontre de Jérôme Verdier. Il est tanneur mégissier dans le Tarn, repreneur et président de la société Alran. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie de ma conversation avec Jérôme. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Avant de devenir tanneur mégissier, Jérôme a d'abord été pendant de nombreuses années expatrié. Il a étudié la finance et la comptabilité, puis a parcouru le monde en travaillant dans la finance et la gestion des flux maritimes d'abord à Hong Kong, puis à Casablanca. Il repasse quelques années par la France, puis repart 7 ans au Laos en tant que directeur général d'une manufacture. Mais pendant toutes ces années, il est accompagné par une envie forte un jour de se mettre à son compte. Arrivé à 40 ans, il en fait part à un ami, son futur partenaire financier. Alors encore au Laos, il reçoit un coup de téléphone.
Quelques mois après, mon partenaire m'appelle et me dit « Écoute, j'ai entendu parler de quelque chose, il faut que tu viennes voir. »
D'accord.
Donc on prend un billet d'avion, ouais. L'école de Singapour, on fait 12 heures de vol, puis on atterrit, là aussi, sans s'arrête de décompression. Ouais. Et dans les 2-3 jours, on rencontre l'équipe d'Alran, avec un accueil et une sensibilité toute particulière. Et c'est un bonheur de découvrir le produit, en fait. En quelques jours, on se fait à l'idée d'un produit qui est compliqué, mais qui est particulièrement agréable, tant au toucher que dans la définition même de ce que c'est.
Mmh. Concrètement, quand on arrive sur ce marché qu'on ne connaît pas forcément, c'est quand même pas, intuitivement, ce n'est pas le premier truc auquel on pense. Non, mais c'est vrai.
Et, clairement.
Et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on fait pour valider l'idée et de se dire, OK, il y a un vrai marché, ça va dans le sens de l'histoire, il y a un portefeuille client qui est là, etc. C'est quoi les questions qu'on se pose et qu'est-ce qu'on regarde pour s'engager? Parce que vous, quand on rachète une boîte, on ne s'engage pas pour 3 ans ou 5 ans. Quoi. On se dit, c'est un projet de vie, il va falloir le mener, ouais. il va falloir être un couteau entre les dents et se battre. Quoi.
En effet, et puis avec le rapatriement de famille, armes et bagages,
avec, ouais.
Pose un certain nombre de problèmes logistiques qu'il faut aussi résoudre. Ce que l'on a fait. Mais donc, pour l'étude du sujet et pour essayer de comprendre l'activité, on fait son plan à 3 ans, on regarde le portefeuille client, en effet, on essaie de trouver qu'est-ce qui se passe autour. Et je dois avouer que tout ce que l'on a regardé comme données autour de ce métier dans les 15 dernières années avant 2008, donnait pas vraiment envie d'y aller.
Ouais.
Donnait pas envie d'y aller.
Parce que c'était quoi les données?
Les
pour
données,
les gens qui sont pas du
métier. C'est un secteur de la tannerie mégisserie en forte crise,
ouais.
Depuis le début des années 80. Le travail, tout ce qui était des travaux manuels de l'industrie de main-d'œuvre, que ce soit le textile, la confection, l'industrie de la chaussure et la tannerie mégisserie qui va avec. Beaucoup de sociétés en difficulté, beaucoup de faillites, beaucoup de dépôts de bilan dans les 15 années précédentes.
Ouais.
Mais il y a un fil rouge dans l'étude qui fait qu'on y va quand même. On y va quand même, c'est une espèce d'étincelle sur la matière, ça c'est évident.
Ouais.
Et puis un cédant extraordinaire. Voilà.
Un cédant
extraordinaire.
Ah oui, d'accord.
Le vendeur.
Le vendeur.
Qui a su nous amener à la sensibilité et une analyse très objective de la situation. Et ça, je lui en sais gré. Il le sait, je le dis souvent. Mais c'est pour nous, ça a été très important.
Ouais. Ouais. Avant de revenir sur l'épopée, la reprise d'Alran, etc., tannerie, mégisserie, ça veut dire quoi? Mégisserie, vous me l'avez dit en off, mais mégisserie, alors moi qui suis dans le cuir, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, mégisserie, c'est honte à moi.
Alors la tannerie, le métier de tanneur, de mégissier, en fait, C'est deux types de, d'activités. Une activité sur les grandes peaux.
Ouais.
Donc c'est aujourd'hui on appelle bon la tannerie, grosso modo c'est deux hommes par peau lors de toute manipulation devant chaque machine, parce que les peaux sont grandes, elles font 2, 3, voire 4 mètres carrés de surface, donc c'est lourd, il faut les manipuler. Et puis les mégissiers qui sont qui travaillent des petites peaux. Un homme suffit à manipuler une peau en mégisserie, donc c'est la petite peau, c'est de l'agneau, de la chèvre, du crocodile, des cuirs exotiques, voilà. Donc ou un petit peu de veau de temps en temps en bande, c'est-à-dire en demi-peau coupée par la colonne vertébrale.
D'accord.
Voilà, en verticale.
Très bien.
Donc on dit travailler en bande. Évidemment, ce qui sépare un peu les deux métiers, même si les principes restent strictement les mêmes, le tannage, le corroyage, les opérations à sec, et le finissage avec les machines d'application de produits avec des aérosols géants, enfin des grandes cabines d'application, vous avez donc des opérations qui sont strictement similaires. Et bien sûr, la valeur ajoutée est beaucoup plus importante sur des grandes peaux parce qu'on manipule des surfaces plus grandes. Donc les mégissiers sont un petit peu parents pauvres, voilà, dans le métier.
Okay.
Voilà.
Très bien. Expliquez-nous le métier vraiment de votre métier, ça consiste en quoi ?
Alors les tanneurs mégissiers sont depuis 100 000 ans peut-être les premiers recycleurs au monde. En fait, notre travail c'est récupérer le cinquième quartier de l'alimentation humaine. En fait, le travail du tanneur mégissier c'est de récupérer la dépouille en sortie d'abattoir. Et de passer de la bête à la belle, c'est-à-dire de cette dépouille qui contient poil, graisse et sang, et d'en faire quelque chose d'imputrescible, de superbe, et qui va durer dans le temps. Et donc ces opérations sont complexes. Elles commencent par une première opération massive qui consomme pas mal d'eau, qui s'appelle la rivière. On va rincer, dépoiler, j'emploie des termes le plus simples possible, écharner.
C'est-à-dire quoi écharner ?
Écharner, enlever les chairs. D'accord. À l'arrière, donc réduire l'épaisseur de la peau.
D'accord.
Pour la standardiser autant que possible en fonction des besoins. Et donc cette opération de rivière se conclut par un tannage qui peut être soit minéral, donc en chrome ou à la lin, soit végétal avec différents agents végétaux de tout type. Avec des process plus ou moins longs, plus ou moins courts, plus ou moins intenses en couleurs, notamment avec des couleurs changeantes en ce qui concerne le tannage végétal. Et se conclut par un premier produit, qui est un produit intermédiaire, qui peut être soit légèrement humide, qu'on appelle le wet blue dans le langage professionnel. Le wet blue, c'est donc un tannage au minéral au chrome.
Oui.
Avec une peau qui a été donc dépoilée et qui est légèrement bleue, légèrement grise, bleu-grise, et qui est prête à être inspectée pour ensuite passer aux étapes suivantes. En matière de tannage végétal, on est plutôt sur ce qu'on appelle des crusts, qui sont secs, et que l'on va là aussi, puisqu'ils sont dépoilés, pouvoir retrier en fonction des besoins qui vont suivre. Donc, je répète, une première étape, la rivière, suivi avec un stock intermédiaire important qui peut être classé, trié, pour ensuite passer aux opérations suivantes de retannage teinture, la constitution de l'eau par classement, bien sûr, qui correspond aux commandes des clients. Donc on passe d'un quelque chose qui est une opération de rivière qui est assez homogène, qui est assez constante, permanente, dans ses formulations en tout cas. Et puis ensuite, beaucoup de diversité dans le retannage teinture pour arriver à une grande diversité de cuir fini. Les opérations de retannage teinture, on va le donner pour chaque bain effectué, on va travailler sur la nourriture du cuir. On va les teindre. On va éventuellement mettre des agents de réticulants, des agents de crispation, des toutes sortes de produits qui permettent qu'une fois que le cuir est sec, on puisse le travailler dans de bonnes conditions et révéler finalement les produits qu'on a mis dedans. Une fois que les opérations à sec sont faites, on peut éventuellement passer un finissage sur ces cuirs pour les protéger de la lumière, pour éviter que les couleurs donc se fanent. Mmh. On peut mettre des produits, des lacs, intensifier les couleurs, mettre des teintures avec, pour ajuster la teinte demandée par le client. Et ensuite, livrer un cuir fini. Voilà, notre métier, c'est ça. C'est fabriquer du cuir fini. J'utilise souvent cette formule de la bête à la belle. La belle peau étant celle que tous les maroquiniers, chausseurs et autres artisans du livre ou de l'artisanat vont utiliser pour faire de très belles choses. Voilà.
D'accord. Et vous, Alran, à quel moment vous arrivez dans ce processus où vous prenez déjà depuis la bête ?
C'est une excellente question. Il y a énormément de tanneries, en fait, qui ne sont que des ateliers de retannage teinture et d'après, qui n'ont pas de rivière. Donc, ils achètent les creuses, les wet blue, en entrée de process. D'autres sont totalement intégrés, ont les deux opérations sous le même toit, sous la même entité juridique. Ce sont en général les plus grosses tanneries. Mmh. Les plus petites d'entre nous, notamment en France, ce sont les entités qui n'ont pas de rivière. Sur une cinquantaine d'opérateurs cuir en France, vous n'avez qu'une dizaine de rivières. Voilà. Ce sont les grandes tanneries de la tannerie imagisserie française.
Très bien.
Voilà.
Parfait. Oui, il y a un truc qui me turlupine quand même depuis tout à l'heure quand vous me racontez ça. C'est qu'est-ce que vous avez dit à votre compagne quand vous avez vendu le truc?
Ah ben, ça se fait tout naturellement en fait. Ouais. Ça se fait tout naturellement parce que en fait ma compagne m'a suivi depuis la fac, depuis le baccalauréat jusqu'à aujourd'hui, et à chaque étape de nos voyages et de nos déplacements, elle était à mes côtés, donc on a fait un peu le tour du monde ensemble. Mmh. Et j'ai eu un enfant sur chaque continent. Voilà. Donc, mon aîné à Casablanca, mon numéro 2 en France, et ma petite numéro 3 à Bangkok. Voilà, j'ai eu cette chance-là.
Trop bien. Quand vous arrivez donc dans le Tarn, là, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous rachetez en fait finalement et...
Une belle unité de mégisserie. Mmh. C'est-à-dire une unité de production qui semble bien organisée, dont les flux sont bien gérés. Voilà. Quelque chose que la profession connaît comme étant, pas un exemple, je n'irai pas jusque-là, mais comme quelque chose qui est raisonnablement géré. Ouais. Voilà. Et une boîte qui, si les années 80 ont été très dures parce qu'elle avait passé par les phases de grosse délocalisation de l'industrie de la chaussure, a su rebondir au début des années 2000
en travaillant
avec la maroquinerie, en fait. Ouais. Voilà. Donc des produits de belle facture, des produits sophistiqués, des produits hautement sélectionnés. Et on arrive à construire là-dessus.
Donc ouais, ça a été le prolongement vous, de votre stratégie, de dire on est vraiment sur le très haut de gamme.
Oui, on est sur le très haut de gamme. En tannerie, on a du mal à utiliser le mot luxe.
Pourquoi ?
Parce qu'on est plutôt sur des produits de belle facture. On a plutôt cette tendance-là. Le luxe, ça équivaut à un peu de grosse marge, toutes ces choses-là, enfin beaucoup de sous, et c'est pas forcément ce qu'on a dans le métier. Pour notre entité, en tout cas, quelque chose de bien géré, quelque chose qui fait attention à ce qu'il fabrique, à ce qu'il dépense, mais on n'est pas dans le luxe du D'accord. tout.
Comment on identifie un produit de belle facture, justement, une peau de belle facture?
Je vais vous faire écouter. J'ai amené un rouleau là, de peau végétale avec moi. Ouais. Et ça a un son particulier quand on tanne du végétal. Il y a un bruit particulier. La chèvre, elle chante. Et ben rien que ça déjà, c'est déjà un premier indice. Ensuite, il va falloir sélectionner les peaux avec une attention toute particulière. Tous les détails sont importants. Le creux, la main. La façon dont le finissage a été appliqué, la façon dont on aura fait nos teintures tannage de façon le plus homogène possible pour mettre un minimum de produits en finissage dessus de façon à ce que les couleurs puissent être le plus respectées possible. Il y a énormément d'opérations qui chacune ont leur importance. Voilà. Et un beau produit, c'est un produit qui, j'ai envie de dire, il ne s'agit pas qu'il soit parfait, il n'y a aucune peau parfaite. Par contre, il y a des produits qui correspondent parfaitement aux besoins de l'utilisateur. C'est ça qu'on fait, en fait. On fait des produits qui sont conformes à l'attente. C'est là que la qualité s'exprime. c'est pas la peine de faire des peaux sans aucun défaut si le gars va couper le maroquinier ou le chausseur va couper les carrés de 15, 5 cm de côté. Ça sert à rien. Il peut couper, il peut placer, il peut s'occuper de la peau, même si elle a un choix qui est bas. Par contre, si on sait que l'article doit être travaillé sur des panneaux entiers, des extérieurs de sac, il faut absolument que la peau, là, pour le coup, soit parfaite. Et c'est ça un peu le challenge. Ouais. Voilà. Donc, arbitrer, ouais. Allouer les choix et les cures finies au bon usage.
En fonction des besoins des clients.
Des besoins des clients. Ouais. Et si le client est capable, dans le prix qui est négocié avec lui, d'accepter un certain nombre de bas choix ou de choix moyens, tout va bien. Tout le monde s'y retrouve. Si dans la production, on n'a pas été capable d'obtenir le bon pourcentage de bons choix correspondant au prix, ça va grincer. Ça va grincer. Et là, on n'est pas à la qualité requise. On n'est pas au bon cuir. Voilà. Donc, il faut être très attentif à ça. Et il y a une part de relationnel qui est très importante entre les acheteurs et les tanneries.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous, chez Alran ? Pourquoi les gens viennent à vous ?
Alors, chez Alran, on vient chercher de la chaîne végétale. Voilà, la chaîne végétale retannée par nos soins à Mazamet. Et travailler à la main beaucoup sur des chèvres cure finies qui ont une intensité de travail manuel très importante. C'est notamment ce qu'on appelle le liégémain ou la chèvre chagrinée, qui sont des articles qui requièrent énormément de travail et dont les étapes de préparation sont absolument non intuitives. C'est pas parce qu'on va faire une première opération, le grain semble travailler correctement et en fait il faut souvent annuler ces opérations pour continuer et reprendre à différentes étapes. Voilà, c'est un vrai défi. Ce sont des cuirs complexes.
D'accord. Quand vous arrivez sur place, vous trouvez une équipe. Dans quel état était l'entreprise ? C'était vraiment, on était au bord du dépôt de bilan. Il y avait une activité qui était quand même, qui était là, qui était viable. Il fallait continuer à la développer. Dans quel état d'esprit était l'équipe ? Et qu'est-ce que vous leur dites pour les emmener avec vous ? Parce qu'il y a vraiment un rôle de manager énorme.
Alors là, en fait, l'idée, ça a été de travailler dans la continuité, complètement dans la continuité. Thierry qui m'a accueilli donc s'est occupé de me former aussi et donc on devait travailler 6 mois ensemble, ça a duré 2 ans.
C'était le cédant.
Voilà. Et finalement on a travaillé 2 ans et demi.
Ah oui.
Voilà. Et c'est un vrai plaisir d'avoir pu prendre la suite et faire que l'activité continue. Enfin voilà, il y a un côté prolongement d'activité. Avec des idées arrêtées aussi, j'avais des opinions qui aujourd'hui se traduisent plutôt pas mal, avec un développement notamment sur l'Asie, que je connaissais bien,
bah oui.
Puisque j'ai beaucoup travaillé avant. Et voilà, donc on a repris quelques salons internationaux que l'on ne faisait plus depuis un petit moment. Donc le fait d'y repartir, le fait de se mettre sur des micro-niches de marché qui sont plus compliquées à travailler, en Europe notamment. Mais l'Asie, ça m'a aidé. Le plan asiatique a aidé. Et puis, on a investi, essayé de mettre à niveau l'équipement, qui était déjà très bien, mais qu'il a fallu moderniser, tout simplement, pour pérenniser la maison. Et on continue. Et on continue. Chaque année, on en met un peu.
D'accord. Voilà. Et ça va dans le bon sens ? C'est quoi votre vision ? Comment vous sentez les choses venir ? J'ai l'impression qu'il y a un retour au local. De toute façon, il y a une envie de réindustrialiser la France. Donc, ça va dans le sens de l'histoire, un peu, quand même, tout ça, non ?
Oui, alors, d'autant plus qu'on vient d'Asie, quand on vient d'Asie, et qu'on se dit... ça aussi, ça a toujours été un peu mon fil rouge.
Ouais.
Fabriquer en France, faire du Made in France, avec autant d'engagement que possible, beaucoup de tripes et d'estomac. Ça, c'est... ça a toujours été mon truc à moi. Mais oui, 25 employés aujourd'hui, c'est il faut les nourrir tous les jours. Donc les contrats, il faut aller les chercher. Aujourd'hui, je suis épaulé par une équipe très très engagée. Je peux pas dire autrement. Donc beaucoup de salons, énormément de salons. On fait jusqu'à 12 semaines de salons par an.
Ouais, donc, ouais.
des salons type Première Vision où nous sommes aujourd'hui, ouais. Et qui sera suivi par l'INEAPL demain, donc oui. Déjà deux fois par an, donc ça fait déjà quatre sur ces deux-là. Ensuite, il y a New York, une fois par an, à PLF, une fois par an, Tokyo, une fois par an, et puis d'autres petites choses qui viennent se greffer sporadiquement. Ouais. Ces salons, Alran, ils participent à travers la Fédération française de la tannerie avec les autres tanneurs français, qui sont nombreux à être volontaires à partir au bout du monde, avec leurs valises, leurs malles, leur collection en troisième ou quatrième valise, deuxième ou troisième valise à bord de l'avion. C'est une belle aventure à chaque fois, ouais, parce qu'on va chercher du client nouveau, on va chercher des gens qui cherchent de beaux produits. Et même si le cuir français est connu, il faut y aller, quoi.
Il faut se lever tôt, ouais,
c'est clair. C'est ça. Et encore plus quand on habite au sud du Tarn, où il faut joindre les aéroports, faire des correspondances, ouais. Ça rajoute tout ça à la fatigue générale. Mais c'est devenu presque... Pour moi, je prends le bus tous les matins, quoi.
Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui vous drive alors? C'est quoi le... Vous allez puiser où toute cette passion?
Clairement, oui, j'ai été alors complètement absorbé par la matière, par ce produit qui reprend vie à travers tous les articles qui sont fabriqués. Ça, pour le coup, quand on sait que nos chèvres, nos cuirs sont dans telle ou telle marque pour telle ou telle saison, ouais, ça fait vibrer. Ouais. Et voir de beaux cuirs en sachant d'où on démarre et où est-ce qu'on arrive lors d'une livraison de 500, 300 pots, que ce soit pour une grande maison ou que ce soit pour un artisan indépendant avec qui on a monté un projet de fabrication d'un article spécifique, c'est un bonheur. Le gars arrive, il fait son prix, il est d'accord avec vous, il repart avec sa marchandise, et quelques semaines après, il vous envoie des photos de l'article qui a été monté. C'est un vrai bonheur. Ouais, c'est un vrai bonheur. Alors, travailler avec les grandes maisons, c'est un peu moins tripé estomac, il y a moins d'affectio. Mais travailler avec des gens qui sont vraiment sur leur établi et que l'on rencontre, qui vous expliquent les difficultés, qui vous expriment le besoin exact du cuir qu'ils recherchent ou qu'ils cherchent à trouver chez vous, si vous répondez à ça pile poil, c'est extraordinaire. Et là, la particularité de ce métier, c'est que la matière, elle ne ment pas. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Un maroquinier sur un établi, il l'exprime, il vous le dit. Et ça, c'est fabuleux. Il y a une relation humaine qui se crée, qui est assez intense. Voilà.
Très bien. Sur 25 personnes que vous êtes là, qui fait quoi? Il y a combien de personnes qui sont vraiment dans l'atelier? Combien de personnes qui sont au support, au commercial, etc.?
Alors, support au commercial, on peut compter 4 personnes, ouais. Et 21 personnes en production.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est
réparti. Oui et non. C'est un peu normal que sur un métier de main-d'œuvre, il y ait plus de gens dans l'atelier qu'en ouais. support. À l'inverse, des grandes maisons, des grandes structures, je dirais, de services ou un peu modernes, les sociétés du CAC 40. Ouais. Il est évident que dans une PME comme la nôtre, les gens sont plutôt engagés à la production, définitivement, sur le concret. Ouais. Et donc, on va avoir un bon tiers dans la zone humide, ce qu'on appelle donc la zone de retanage teinture, de traitement des peaux humides. Ensuite, une petite moitié des 21 en corvoyage, donc sur la partie sèche, les opérations de sur les peaux, l'assouplissement, le lustrage, le ponçage, toutes ces opérations sur les peaux sèches, c'est à peu près la moitié d'effectifs opérationnels. Et le reste, on va les avoir en finissage, donc qui applique les produits de surface, les finitions. Voilà. Pour travailler en mégisserie, c'est surtout la main qui parle. C'est surtout la main, c'est l'intelligence de la main. Les gens qui vont être les plus performants sont des gens qui ont pris le temps de se former. C'est des gens qui ont, sur la matière j'entends, c'est des gens qui ont eu la chance d'avoir eu le temps de se former parce qu'on aura organisé un système où ils auront pu eux-mêmes gérer leurs courbes d'apprentissage. Vous imaginez bien que les teinturiers, il peut y avoir tous les cours qu'on veut théoriques. Si on n'a pas manipulé les tonneaux, les produits, les pots, on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment une courbe expérimentale qui permet aux gars de progresser.
Mais comment on les trouve ? Parce que j'imagine que des écoles de formation pour ce métier-là, il n'y en a plus beaucoup.
Alors, il y a une école à Lyon qui s'appelle l'ITEC, qui est une merveilleuse école d'ingénieurs. Il en sort une trentaine par an. Certains sont passionnés par la matière et veulent faire que ça. Donc voudront rester en tannerie. Et d'autres sont plutôt attirés par justement la maroquinerie, la chaussure, ou des univers un peu moins, je dirais un peu plus à valeur ajoutée, un peu moins dur. Et donc beaucoup sont embauchés par les grandes maisons, sortis d'ITEC. Maintenant, pour ce qui est des formations de BTS ou d'ouvriers, il n'y a pas d'école.
C'est le terrain, l'école, quoi.
Complètement.
Et c'est dans les entreprises.
Complètement.
Donc c'est beaucoup d'apprentissage, c'est des stages.
C'est sur le tas, en fait.
Ouais,
il s'avère que pour parler de Mazamet, précisément, il y a eu une grande période pour Mazamet depuis les années 1850 jusque dans les années 80, ou disons au début des années 70. Beaucoup d'élénage, beaucoup de cuir. Donc, un bassin d'emploi qui était très orienté sur ces métiers. Aujourd'hui, à Mazamet, il ne reste que 3 mégisseries sur la trentaine qu'il y avait dans les années 70. Enfin, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais pour vous dire que ça a vraiment dégrossi, qu'on est vraiment à l'os, il reste assez peu d'activités sur ce secteur-là à Mazamet. Mais il y a toujours ces 3 entreprises. Et la problématique, c'est de trouver les gens. C'est de trouver les gens pour de les attirer sur ces métiers qui ne sont pas des métiers faciles, bien sûr.
Bah ouais, parce que c'est la réalité du.
La réalité de l'atelier, c'est un métier manuel. C'est un métier manuel.
Ouais, il fait froid, il y a du bruit.
Froid, non. Il y a du bruit, ça peut être humide, il peut y avoir du bruit.
Ouais.
Mais voilà.
Mais
voilà,
bon, vous tombez sur des amoureux de la matière et c'est des vrais passionnés, quoi.
Alors, c'est surtout des gens qui habitent dans le coin, qui ont besoin de vivre dans le coin. Il n'y a pas la mobilité qu'il va y avoir en région parisienne, par exemple. Mais je suis très fier d'avoir avec nous, dans l'équipe, des gens qui viennent de loin, qui viennent de très loin.
Voilà. Pour faire ce métier.
Pour faire ce métier. Des passionnés de la matière, des gens avec qui l'ambiance et nos valeurs ont plu. Et ça, il y a des jeunes et un peu moins jeunes, mais c'est ça dont on fait la promotion.
Et c'est quoi d'ailleurs l'ambiance
On essaie plutôt d'être famille, mais après, dans un atelier, on ne peut pas être copain avec tout le monde, ni ami de longue date. Mais il faut qu'il y ait des ambiances qui soient correctes pour une raison simple. C'est que quand le cuir passe d'une opération à l'autre, il faut que les gens puissent se parler. Il faut que les gens se parlent. Et quand on repère une opération qui ne va pas bien sur un lot fabriqué, vous devez impérativement transmettre cette information à la suite.
Ouais.
Si les personnes ne peuvent pas se parler, ça ne marche pas.
Mais comment on fait alors pour garder ce lien entre les gens ?
On fait aussi attention que possible à l'ambiance générale. Voilà.
Il n'y a pas des outils, des techniques ?
Non, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'outils. Que moi, personnellement, je n'arrive pas à faire et que je ne veux surtout pas. Enfin, dans la vie, je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment ce qu'on veut faire, mais on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Et ce que je ne veux pas, moi, dans une équipe, c'est la gestion par les conflits. Je le dis souvent, je l'exprime souvent. La gestion par les conflits, c'est la mort de toute ambiance. Quoi. Des objectifs divergents ou des conflits institutionnalisés pour essayer de tirer avantage de ça ou ça, ce n'est pas pour moi. C'est peut-être vrai dans les grands groupes, mais c'est plus pour moi ça. Voilà. Moi j'ai besoin que ça soit à taille humaine et que les gens qui bossent avec moi 7, 8, 10 heures par jour soient bien. Et pour ça, s'il y a un problème, ça viendra. Je vais l'éviter autant que possible. Voilà, ça viendra pas de moi.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder à part l'équipe? Oui, on comprend, sans problème.
Il y a un sujet majeur, c'est l'équilibre qu'on doit trouver entre la technique et la tradition. Dans notre métier, je crois que c'est difficile de renouveler régulièrement la production, d'innover de faire plein de nouvelles choses, d'être prêt tous les 6 mois ou tous les 3 mois pour une nouvelle collection ou une pré-collection. Et le travail de toute une équipe d'essayer d'initier des nouveaux produits, c'est extrêmement difficile en fait. Et donc trouver un bon équilibre entre ceux qui sont capables de vendre et ceux qui sont capables de fabriquer, c'est un vrai, vrai challenge. Donc la technique pour fabriquer quelque chose de nouveau, il faut qu'elle soit expérimentée, il faut travailler régulièrement, il faut se tester, il faut casser de la matière pour justement redécouvrir des choses. Et donc l'esprit d'essai ou le ballon d'essai qu'on va tenter avec un produit et qu'on rate, très souvent il n'est jamais perdu.
On découvre des choses, non?
C'est ça.
L'accident amène à de nouvelles choses.
Exactement, c'est un peu l'invention de la céramique. Il faut casser pour... c'est coûteux de casser. C'est coûteux, ça prend du temps. Il n'y a rien qui marche du premier coup, en général.
Ça, c'est sûr.
ou quand un client que vous appréciez particulièrement vous donne un objectif de réalisation soit d'un contre-type, soit d'un nouvel article, il faut souvent essayer plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en permanence. C'est un mouvement et une dynamique qu'il ne faut surtout pas tuer. Voilà, je crois que...
Tester des nouvelles choses en permanence.
Voilà, en permanence. Ouais. Et tous les tanneurs magiciers de France pourraient vous en parler de ça. Cette espèce de cycle permanent qui répond de plus en plus au cycle de la mode, évidemment. Mais il y a toujours des limites qui sont celles de la matière. On ne peut pas faire des cuirs miraculeux avec des bases qui ne sont pas très belles ou du tannage végétal qui voudrait faire du vêtement en étant très épais. Ça peut pas, c'est difficile.
Ouais, voilà. C'est pas possible. Comment vous travaillez justement avec les maisons pour faire de nouvelles choses en permanence? C'est quoi le canal de communication?
Alors en fait, notre canal principal, c'est définitivement les salons, ouais. Avec cet aspect saisonnier, printemps, été, automne, hiver. Et on essaye de proposer des nouveautés à chaque saison. Soit sur des nouveaux articles, des nouvelles formules, des nouveaux travaux de coroyage, des nouvelles finitions. Soit des nouvelles couleurs sur des articles qui sont éprouvés, qui sont connus. Le rythme est très élevé parce que les collections se rapprochent et on entend parler de maisons qui font jusqu'à 6 collections par an. Là, le rythme est impossible à tenir. Donc c'est des développements qui sont plus saisonniers, mais c'est du développement permanent. C'est des propositions, c'est permanent. Mais on aime bien, nous, les gens qui prennent le temps et qui ont un peu de temps devant eux, hein. TEMPS. Nous, le temps, TAN, nous, ouais. C'est plus long, ça prend du temps. Donc on a besoin de gens qui ont les idées bien claires, qui savent ce qu'ils veulent, idéalement, qui savent ce qu'ils veulent plusieurs mois à l'avance.
Ouais.
En avance de l'urgence de la collection.
Ouais.
Et l'urgence de la collection, elle a pour particularité de tout de suite bousculer toute la mise au point des articles que l'on va présenter. Et faire dans l'urgence, en fait, souvent on fait mal. Voilà. Donc, plus il y a de sérénité dans les préparations de collection, même si c'est 1 an ou 18 mois d'avance, ça nous plaît bien.
Voilà. J'imagine bien. Mais c'est vrai que la problématique, je le vois bien quand je suis en salon pour des marques. On cherche la nouveauté en permanence, on cherche à quelque chose qui excite l'œil, etc. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre quand on est de votre côté, d'exciter le client, l'attirer, et en
absolument.
Même temps être capable d'avoir ces bons classiques, etc. pour pérenniser le long terme. Quoi.
La mécanique, c'est quand même le push-pull, c'est-à-dire qu'on va présenter, on va initier des choses, ouais. Et on va essayer de faire en sorte que les demandes de la clientèle puisse être répondue, on puisse répondre à ces demandes dans les meilleurs délais.
Ouais.
Voilà. L'exercice n'est pas simple. Ouais. Vraiment, l'exercice n'est pas simple.
Un peu plus techniquement, peut-être, les problématiques de financement de la tannerie Mégisserie, c'est quoi?
Énorme.
Mais c'est ça, c'est hyper lourd.
Ouais. C'est très très lent.
Parce que alors autant moi je suis très enfin au fait entre guillemets de ce qui se passe dans le textile, dans la mode quand on est une marque. Avec les problématiques de financer le stock. C'est très consommateur de trésorerie. Mais j'imagine que de votre côté, c'est exactement pareil.
Alors nous, au niveau du cycle d'achat de matières brutes, c'est des cycles qui vont jusqu'à 6 mois, facile. Alors ça dépend si on a la rivière ou pas. Mais il vous suffit d'importer en maritime, et vous avez des cycles qui sont très longs. C'est 30 jours de transport... 45 jours de préparation de votre commande, 30 jours de transport maritime, et puis ensuite le temps de le fabriquer, plus le crédit client. Donc il faut, on est toujours horrifié, nous tanneurs, de voir des clients qui respectent pas les termes de crédit qui sont négociés. J'ai envie de dire que le gentil sous-traitant maroquinier à l'étranger qui au lieu de vous payer à 30 jours vous paye à 120 ou 150 et vous demande en plus des crédits complémentaires à chaque fois qu'il le peut, c'est criminel pour la tannerie. C'est criminel.
Comment vous faites alors? Est-ce que les institutions vous suivent là-dessus? Est-ce que les banques vous suivent? Est-ce que les institutions vous suivent ou c'est laborieux?
Sur le... Non. Non, sur les crédits clients, je pense que il n'y a pas de support. C'est la loi des affaires et en fait, tout le monde fait très attention. Maintenant, pour le financement de projets, les investissements de ces dernières années, très clairement, les conditions de crédit sont très bonnes en termes de taux d'intérêt ou de possibilité d'être financé sur une activité de fabrication en France, sur des sites industriels. On a quand même là des banques qui, à mon sens, jouent leur jeu. À mon sens, oui.
Ouais. C'est quoi la vision pour Atlan pour les années qui viennent?
Alors, Alran, l'idée, c'est de continuer la belle facture de toute façon, rester sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est que l'argent, systématiquement, est autonome. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile de mettre à genoux une tannerie en mettant 50 intermédiaires entre la marque et le fabricant. Donc, ce qu'on cherche, et ce que je souhaite à toute la mégisterie française et à la tannerie française, c'est de faire en sorte que les valeurs ajoutées qui sont faibles sur les cuirs que nous vendons, les cuirs finis que nous vendons, puissent être protégées avec un minimum d'intermédiaires. Ensuite, la vision que nous avons pour notre métier, ça correspond un peu à la tendance du marché, voire beaucoup à la tendance du marché, des cuirs vont respecter les normes d'innocuité de façon exemplaire.
Ça veut dire quoi, ça, l'innocuité?
L'innocuité, c'est la capacité du cuir à être neutre vis-à-vis de l'utilisateur. Donc, qu'il n'y ait pas de chrome 6, qu'il n'y ait pas de produits dits dangereux, irritants, ou je ne sais pas quoi. Tous les produits qui sont particulièrement contrôlés par la loi REACH, et qui est une loi qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à progresser dans ce domaine-là, dans l'innocuité en général. La loi REACH a été mise en œuvre en 2007. Elle nous a donné 10 ans pour nous mettre au point sur des produits dits hautement cancérigènes ou sur des produits dangereux. Et nous avons, je pense que l'industrie a passé le cap de façon exemplaire, notamment en Europe. Et aujourd'hui, c'est un atout pour les tanneurs européens que d'avoir cette loi qui a poussé toute l'industrie chimique à amont de fournir des produits qui sont absolument respectueux. Et ça demain, ça nous permet de nous imposer à l'étranger. Voilà, en Asie notamment. Et aux États-Unis. Donc ça, il faut tirer de cette contrainte qui a maintenant plus de 10 ans un vrai avantage concurrentiel. Ça, on saura faire. Je pense que les tanneurs et magistrats français et européens vont tirer avantage de ça. Ouais.
Parce que les tanneurs, les mégisseurs dans les autres régions du monde n'ont pas eu ces contraintes-là.
REACH, c'est une loi européenne.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et les cuirs qui sont fabriqués en Asie du Sud-Est ou en Chine ou en Asie du Nord n'ont pas du tout les mêmes contraintes.
Ouais.
Voilà.
Et ça, c'est une demande du marché, enfin, c'est une demande des Marocains,
absolument,
etc.
Absolument.
Ouais. Et sur tous les marchés.
Sur tous les marchés.
Ouais.
Sur tous les marchés, on
Parce
veut
que
pas.
Le client final, il veut,
ouais. Et puis plus la maroquinerie ou les articles finis qui sont utilisateurs de nos cuirs sont de valeur ajoutée, et plus c'est demandé.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais, parce que les gens voyagent, ils se.
Absolument.
Ils savent.
Voilà. Mais Les réseaux, je parle même pas des réseaux sociaux où, où tout circule à la vitesse grand V. Ouais. Voilà. Ouais. Un autre point, c'est un savoir-faire français unique au monde. On a des fabricants de cuir fini de crocodile qui sont fabuleux en France. Vous avez les meilleures tanneries de veau du monde, elles sont chez nous. Enfin, je trahis pas de secret en disant ça. On a d'extraordinaires agneaux plongés dans le sud de la France, la ville de Millau. Voilà, les chèvres liégées, chagrinées, c'est une grande spécialité française dont je suis
un des représentants,
un des humbles représentants. Voilà, donc ces savoir-faire, ils sont porteurs pour moi d'espoir sur un métier qui a énormément souffert. Il y avait 1300 tanneurs magiciers dans les années 60. On n'est plus qu'une cinquantaine. Donc faut bien mettre ça en perspective. L'industrie italienne est beaucoup plus puissante que la nôtre.
Pourquoi on a raté le coche, nous?
Ben parce que les délocalisations, notamment de tous les métiers de main-d'œuvre, ont été très importantes.
Mais pour les Italiens, la main-d'œuvre était moins chère là-bas? Qu'est-ce qui fait que les Italiens s'en sont mieux sortis?
Alors, j'étais pas là dans le métier à cette époque-là, mais ce qui se dit, c'est que la dévaluation compétitive de la lire de l'époque a toujours été un avantage pour les entreprises de tissu italien du Nord. Ensuite, le capitalisme familial italien a toujours servi pour des petites entités qui étaient prêtes à résister, à prendre sur elles avec une certaine, une vraie résilience, a été un facteur de résistance important. Voilà. Et vous avez en manufacture de produits finis, de sacs, de chaussures, énormément de monde en Italie. Donc ça, la tannerie ou la mégisserie, en fait, elle est adossée plus ou moins à ces ateliers. Donc la proximité aide beaucoup. Nous, la chaussure, il reste peu de monde. Il reste peu de monde. Les chaussures de femmes, les Kélian, les Manoukian, etc. Tout ça est parti. Ouais. Est parti pour moult raisons, quelles qu'elles soient. Mais les tanneries qui fournissaient ces usines à chaque saison, avec une rapidité de quelques jours d'exécution ou une diversité colorie énorme, elles se sont retrouvées avec une demande amoindrie. Et cette demande est revenue au début des années 2000 grâce à la maroquinerie. À la maroquinerie des belles maisons que nous connaissons tous.
Est-ce que justement c'est une tendance à cette réindustrialisation de la France? Est-ce que c'est quelque chose dont vous entendez? Est-ce que vous qui êtes dans le métier, etc.
Sur notre secteur, oui, il y a eu de superbes projets récemment. D'abord, les entités qui sont les plus importantes ont des plans d'investissement qui sont très importants. Certaines ont été intégrées. Il y a des grands groupes de maroquinerie. Elles ont développé des plans d'investissement énormes. Ensuite, celles qui sont restées indépendantes, qui n'ont pas intégré ces grands groupes, restent dynamiques dans l'investissement. Même si c'est plus difficile, il y a des projets. Voilà. Et il y a aussi de l'emploi qui va avec. Donc c'est... Je vois plutôt le verre à moitié plein, mais la dynamique, elle est plutôt intéressante aujourd'hui. Voilà, haussière et intéressante.
Même si ça reste fragile, ça reste intéressant. Voilà. Et on sent bien qu'il y a quand même une aspiration des gens, des consommateurs aux produits localement, aux produits en Europe.
J'encourage, moi, tous les jeunes de la mode, tous les gens qui créent et qui sont sur des travaux de développement de gamme, etc., de vraiment s'intéresser au savoir-faire français, parce que il y a une capacité à les servir, d'abord, et puis ensuite, on produit en France des cuirs finis dans des conditions qui sont excellentes. On a parlé d'innocuité tout à l'heure, mais il y a aussi tout l'environnement qui est hyper bien géré en France.
Bien sûr.
On a des contraintes gouvernementales et réglementaires qui sont énormes. Vous ne faites pas ce que vous voulez avec l'eau qui a été salie. Aujourd'hui, elle doit être traitée. Ensuite, elle est amenée à une station d'épuration au bout du tuyau. Et ça ne va plus du tout dans la nature. En France, en tout cas.
Ça n'existe plus.
Ah non, ça n'existe plus. Et les mandataires sociaux de ces sociétés, c'est les représentants, les gens qui vous parlent au quotidien, à qui vous envoyez vos commandes, les mandataires sociaux, s'ils n'ont pas répondu à ces questions-là, ils vont en prison. Donc ça blague pas.
Ouais.
Et voilà. Donc il faut en avoir bien conscience de tout ça. des gens qui sont près de vous, qui sont capables de vous servir rapidement et qui en plus produisent dans des conditions exceptionnelles. Profitez-en.
Demande le peuple, c'est ça. Bon, ça coûte un peu plus cher ou
Oui, bien sûr. Un travail de main d'œuvre.
Ouais. Et les minimums, c'est des vrais sujets, ça.
Alors, les minima sont toujours des minima dans une tannerie qui sont techniques. En fait, dans un tonneau, il faut avoir un effet de masse en retanage teinture.
Ouais.
Donc, plus est petit le tonneau, et plus l'effet de masse dans le jus, dans l'eau qui est dans laquelle le cuir est travaillé, peut être faible. Donc, en ce qui concerne l'alran, on est à 20 mètres carrés, 20 kilos. Et des tanneries vous diront, moi, c'est 100 mètres carrés, moi, c'est 50 mètres carrés. En fait, ça correspond à leur process de mise en travail dans un tonneau qui est souvent le plus petit de leur gamme de tonneaux. Mmh. Voilà. Donc, très vite, ça peut paraître beaucoup pour des petits opérateurs. Mmh. Mais pour certaines maisons, c'est rien du tout.
Ouais, bien voilà. Sûr.
Tout dépend du besoin qu'on a au bout, bien sûr.
Très bien.
Une tendance que je souhaitais souligner, c'est que beaucoup de tanneurs vous offrent aujourd'hui un service de mise à disposition sur stock d'un certain nombre d'articles en différents coloris. Et ça, là, c'est du super service et de la super proximité. Il faut en profiter.
Ouais.
Voilà.
Très bien. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour du cadran. Ça fait 50 minutes qu'on discute ensemble. Qu'est-ce qui vous impressionne en ce moment dans l'industrie de la mode ? Qu'est-ce qui vous inspire ?
Alors moi, ce qui m'inspire beaucoup, qui m'étonne toujours, c'est la rapidité de renouvellement actuellement. On est dans un exponentiel de renouvellement. Mmh. Ça va très très vite. Et si on pouvait aller un peu moins vite, ça serait mieux.
Quoi, ça veut dire c'est le rythme des saisons,
collections. Oui, le rythme des collections.
Ouais.
Je crois que tout un chacun a besoin de s'y retrouver. Si on veut garder des valeurs à tout ce que l'on achète et dépense, évidemment, à ce que les consommateurs soient attachés à des produits bien faits, à des produits qui durent, je pense qu'il faut ralentir le rythme. Perception très personnelle, bien sûr.
Mais ça, c'est ce que vous sentez dans l'industrie, chez vos clients, c'est pas vraiment le cas encore. J'ai l'impression que ça... Vous me dites que ça accélère, alors que...
C'est déjà très accéléré.
Ouais, ouais, ça va
déjà très très vite. Ouais. Mais souvent, il vaudrait mieux pas changer tous les cuirs d'une gamme printemps-été dans le mois qui précède la prise de décision. Ça serait peut-être pas mal de garder les cuirs, changer les couleurs, pourquoi pas, mais garder les cuirs et pouvoir travailler sereinement sur les saisons à venir en connaissant la matière.
Mais ça vient de quoi, ça ? Moi, j'ai le sentiment quand même que le problème de l'industrie, du luxe, etc., c'est qu'il y a une déconnexion entre la direction artistique et le terrain. Et que c'est vrai que souvent, la direction artistique, les créatifs, on va peut-être pas se faire des amis en disant ça, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, de la production, du produit, de l'usine, etc. Et ils demandent tout et n'importe quoi.
Ça peut être le cas, ça dépend des maisons. Ça dépend du niveau, du niveau, je dirais, de compétences en matière cuir, c'est évident. Mais nombre des maisons avec un grand M sont tout à fait compétentes. Tout à fait compétentes avec leurs équipes. Et ça, il y a un vrai, vrai savoir-faire aussi, analyser des produits. Maintenant, une équipe de petite taille qui change de styliste tous les 12 mois et qui le styliste vient avec des nouvelles idées, etc., ça va parfois un peu trop vite. Pour tout changer, ça va un peu trop vite.
Ouais, voilà. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre parcours ?
Pas grand-chose. Je crois que si j'avais pu apprendre les langues étrangères à chaque fois que je m'étais arrêté au Maroc, en Chine, en Asie, ça aurait été bien. Mes enfants parlent... Enfin, ma grande-fille parle un petit peu chinois et c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien.
La passation de... Enfin, vous êtes encore très jeune, hein.
50 ans.
Ça va, vous avez encore un peu de marge. Mais oui. c'est dans ces métiers, on dit toujours, c'est tellement des métiers, des beaux métiers, passion, de savoir-faire, etc., qu'on a envie de transmettre à ses proches, à ses enfants, etc. C'est quelque chose que vous avez en tête, ça, ou pas ?
Pas du tout. Aujourd'hui, pas du tout. Mais alors, c'est...
Loin de ça.
Ouais.
Okay.
On est loin de ça. Et là, il faudra... qui vivra verra là pour le coup.
Okay. Très bien. Voilà. Sauf si vous avez des choses à rajouter, on va s'arrêter là avec ma dernière question en général qui est de dire qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast ? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter avant ?
Non, vous remercier parce que je pense que une fois de plus, l'échange est intéressant. Voilà, vraiment intéressant. J'ai écouté vos podcasts précédents et j'ai trouvé ça étonnant. Donc bravo,
merci
bravo pour ça. Et deuxième point, donc qui je voudrais entendre dans un podcast comme celui-là, qui à mon avis peut être très intéressant, notamment pour les jeunes créateurs qui s'installent, c'est de bien comprendre la filière. La filière, évidemment, vous pourriez interroger des talents un peu plus organisés que moi, des talents de plus grande taille, non pas dans la taille corporelle, mais des équipes plus importantes jusqu'à 100 personnes. La personne que je vous recommande, c'est une institution qui s'appelle le CNC, à travers son président, Franck Gouelly. Je pense que c'est intéressant. Il vous parlerait filière, avant les abattoirs, après. Je pense qu'il a une bonne vision de l'ensemble des problématiques du cuir sur toutes les étapes du consommateur ou du pré jusqu'au consommateur. Et ça peut être très très riche. Voilà.
Super. Eh ben, merci infiniment Jérôme. Longue vie à vous et à Atlan.
Alran. Merci à vous.
Atlan, c'est mes cousins.
Merci à vous.
Alran. À bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.